Alors, ce mois d'août, on a entrepris une série de prédications à partir de la première épître de Pierre. Et jusqu'à présent, nous n'avons pas beaucoup cheminé dans le texte et dans l'avancement des chapitres. Je pensais qu'en 5 fois, on allait faire le tour de l'épître de Pierre et puis on ne s'est même pas arrivé au premier chapitre, à la fin. Voilà. Et puis, c'est pas aujourd'hui et c'est pas ce matin qu'on va avancer davantage. En fait, le texte biblique est comme une mine inépuisable. Il y a toujours de nouveaux filons. Et je me suis retrouvé dans la préparation de cette prédication comme devant une orange ou un citron que je voudrais presser, aller jusqu'au bout. Et puis, ça donne toujours davantage de jus. Il y a toujours du jus qui sort, toujours du bon jus pour nous, quoi. Voilà. Alors, et plus je pressais le texte, et plus je m'y arrêtais, et plus ça me donnait de la vie, et plus ça m'interpellait, et puis plus j'avais envie de vous le partager comme je le recevais. Et c'est comme ça que je vais faire ce matin, en fait. Redire un peu ce que le Seigneur me disait au travers du texte. Alors peut-être ce seront des redites pour les uns ou pour les autres qui avaient été fidèles durant ce mois d'août. Peut-être que je répiape. Alors, je ne sais pas, ceux qui ne sont pas de Nîmes savent ce que c'est répiaper. Hein, comment tu dis ? Répapier. Répapier, ça veut dire radoter, en fait. Hein, voilà. Peut-être que je radote, c'est peut-être mon grand âge. Mais comme l'apôtre Paul, dans l'Épître aux Philippiens, dit « Je ne me lasse pas de vous répéter les mêmes choses. » Je ne me lasse pas de vous répéter les mêmes choses. Alors, laissons encore la source nous donner de son eau vive, le filon nous donner de ses trésors, et puis l'orange de son jus inaltérable. Laissons vraiment la parole de Dieu vraiment, vraiment bénir nos cœurs. Je voudrais qu'on prie. Seigneur, merci pour ta parole. Elle est toujours si riche, si goûteuse, si performante, Seigneur, si transformante. Seigneur, vraiment, je veux te demander de venir nous toucher encore par elle. Seigneur, ne permets pas, Seigneur, que mes propres mots la déforment, lui enlèvent son goût par des additifs qui n'ont pas lieu d'être. Seigneur, que ton esprit vienne nous éclairer encore ta parole. Amen. Alors, je vous invite à lire encore, à partir du verset 18, le chapitre 1, nous l'avons lu la semaine dernière, mais j'ai envie qu'on le relise, jusqu'au verset 3 du chapitre 2. Alors, ça, je crois que ça va s'afficher. C'est dans la version du semeur. Vous avez été libérés de cette manière futile de vivre que vous ont transmise vos ancêtres, et vous savez à quel prix. Ce n'est pas par des biens qui se dévaluent comme l'argent et l'or. Non, il a fallu que le Christ, tel un agneau pur et sans défaut, verse son sang précieux en sacrifice pour vous. Dès avant la création du monde, Dieu l'avait choisi pour cela, et il a paru dans ces temps qui sont les derniers pour agir en votre faveur. Par lui, vous croyez en Dieu qui l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire. Ainsi, votre foi et votre espérance sont tournées vers Dieu. Par votre obéissance à la vérité, vous avez purifié votre être afin d'aimer sincèrement vos frères. Aimez-vous donc ardemment les uns les autres, de tout votre cœur. Car vous êtes nés à une vie nouvelle, non d'un homme mortel, mais d'une semence immortelle, la parole vivante et éternelle de Dieu. En effet, il est écrit, tout homme est comme l'herbe des prés, toute gloire humaine comme la fleur des champs. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Or, cette parole, c'est la bonne nouvelle qui vous a été annoncée. Rejetez donc toutes les formes de méchanceté et de ruse, l'hypocrisie, la jalousie et toute médisance. Comme des enfants nouveau-nés, désirez ardemment le lait pur de la parole, afin qu'il vous fasse grandir en vue du salut, puisque, comme dit l'Écriture, vous avez goûté combien le Seigneur est bon. Amen. On va s'arrêter plus spécifiquement sur le verset 23. Car vous êtes nés à une vie nouvelle, non d'un homme mortel, mais d'une semence immortelle. C'est la seconde fois dans l'Épître que Pierre utilise ces mots. Vous êtes né à une vie nouvelle. Alors se pose la question, comment naît-on à une vie nouvelle ? Comment sait-on que nous sommes nés à une vie nouvelle ? Quels sont les fruits attendus de la vie nouvelle ? Comment grandir dans cette vie nouvelle ? Alors, comment naît-on à la vie nouvelle ? La première fois que nous avons vu cette affirmation, c'est au tout début de l'Épître, en introduction. Pierre nous dit, c'est le Père de Jésus-Christ qui fait naître de nouveau. Ainsi, ce n'est pas une œuvre pour Dieu que nous devrions faire, mais c'est une œuvre de Dieu pour nous et que nous recevons. C'est le Père qui nous fait naître de nouveau. Et Pierre insiste maintenant, naître à la vie nouvelle, cela ne vient pas de l'homme mortel, puisque nous l'avons vu, cela vient de Dieu le Père, mais cela vient par le moyen de la parole vivante et éternelle de Dieu. Et la parole vivante est comparée ici à une semence qui est semée sur le terrain de nos vies. Le mot grec pour semence, c'est le mot spora, spore, pour ceux qui sont calés en botanique. Voilà, c'est un mot, c'est le pollen de Dieu. Alors j'espère qu'il n'y a pas d'allergique personne ici au pollen de Dieu. Hein. Alors c'est une parole vivante parce qu'elle porte la vie. Nous n'avons pas la vie en nous-mêmes. La vie est quelque chose que nous recevons, n'est-ce pas ? Nous ne sommes pas dit, tiens, un jour, et si je naissais ? Le mot naître n'est peut-être même pas le bon mot. Il s'agit plutôt de génération, de régénération. Et donc, c'est comme si un jour, on se levait et puis si on se disait, tiens, si je m'auto-générais, ça ne peut pas, ça ne se peut pas. Nous avons reçu la vie, nous ne la produisons pas. Nous pouvons la transmettre, mais elle ne vient pas de nous. Elle vient de Dieu via nos parents qui l'avaient reçue eux-mêmes de Dieu via leurs parents. La génération spontanée n'existe pas. Savez-vous que c'est Louis Pasteur qui a démontré que la génération spontanée n'existe pas. Mais Dieu qui est Père, Fils et Saint-Esprit a la vie en lui-même. Dieu n'a pas reçu la vie. Dieu est vie. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et c'est sa parole qui nous fait naître pour la vie éternelle. Jean 5, verset 26. Comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. C'est donc par sa parole, qui est comparable à une semence, que nous naissons à une vie nouvelle. Mais si c'est par sa parole que nous naissons à une vie nouvelle. De quoi le Seigneur nous parle-t-il ? Eh bien, mes amis, il nous parle de lui, de notre misère et de notre salut. Il nous parle de lui. Il nous parle de son amour. Non seulement il nous en parle, mais il nous le montre, il nous le démontre, et il nous l'a démontré en venant sur terre et en mourant sur la croix. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. J'ai pris l'habitude, ce mois d'août, de vous rappeler de vieux cantiques, enfin en tout cas vieux pour moi, que je chantais quand j'étais jeune chrétien. On a eu un beau palais, une couronne, on a eu ça, il a gère pèlerin sur cette terre. Alors cette fois-ci, j'aimerais vous chanter Car Dieu nous aime, rien n'est secret, tous nos problèmes, il les connaît. Il nous appelle, les bras ouverts, pour nous rebelles. Il s'est offert. Merci de m'avoir accompagné. Ça sera tout, hein? Nous étions spirituellement morts, éloignés de Dieu, rebelles, sans aucune relation avec lui, aliénés à notre péché. Nos ancêtres avaient désobéi, notre lignée avait désobéi, nous avions désobéi, j'avais désobéi. Nous étions enfants de colère, destinés à la colère, mais à cause de son grand amour, voilà comment il nous le montre. Alors que nous étions pécheurs, alors que nous étions rebelles, Jésus-Christ est mort pour nous, devenant péché pour nous, recevant le juste châtiment sur lui, ce châtiment que nous aurions dû recevoir. Ce n'est pas par des biens qui se dévaluent comme l'or et l'argent. Non, il a fallu que le Christ, tel un agneau pur et sans défaut, verse son sang précieux en sacrifice pour vous. Et dès avant la création du monde, Dieu l'avait choisi pour cela. Et il a paru dans ces temps qui sont les derniers pour agir en votre faveur. Et alors que cette parole retentit à nos oreilles, alors que le Seigneur parle, alors qu'il nous parle et que nous l'entendons, le Saint-Esprit vient appliquer cette parole en nous et nous répondons et nous recevons. Et je ne peux pas dire mieux, la vie spirituelle, la vie nouvelle germe en nous. Alors que nous entendons cette parole, que nous la recevons, la vie nouvelle naît. Je venais de naître à cette nouvelle vie. J'avais 15 ans. J'avais entendu cette parole. Viens. Je suis venu. Simplement. Viens et je suis venu. Peut-être il y a quelqu'un parmi nous, au milieu de nous, qui entend cette parole, peut-être pour la première fois. Je ne vous connais pas tous, il y a des têtes nouvelles. Mais peut-être que vous entendez cette parole, que le Seigneur vous aime, que vous êtes loin de lui, mais qu'il vous appelle à la vie. Et peut-être que vous l'entendez, cette parole, alors, en même temps, le Saint-Esprit vient l'appliquer dans votre cœur et vous répondez. Et alors que vous répondez, la vie spirituelle, une vie nouvelle, vient naître dans votre cœur. Si vous avez envie de parler avec moi à la fin du culte, vous venez me voir. Si cette parole vous touche, vous venez me voir à la fin. Et puis on priera ensemble. Voilà comment naît la vie spirituelle. Je ne peux pas l'expliquer mieux. Je ne peux pas la décrire mieux. La conversion, la nouvelle naissance, c'est un acte qui vient de Dieu, qui se vient au travers de la parole, et puis on la reçoit. Il y a un avant, il y a un après, une ouverture qui se fait. Comment sait-on que nous sommes nés à une vie nouvelle? Parce que nous portons les fruits de la semence qui qui a été semé en nous, tout simplement. J'avais entendu cette parole, viens, et alors je suis venu. Ma famille était non pratiquante. Et la vie nouvelle qui était née en moi se caractérisait par un désir incroyable. Je voulais qu'on me parle toujours plus de Jésus. J'étais un soifard de Jésus. Ce n'était pas seulement une soif intellectuelle ou de connaissance, parce que je connaissais que ce qu'on m'avait apporté au catéchisme. Mais je ressentais ce désir de Dieu d'une façon, je dirais, émotionnelle, quelque chose de vital. On l'a chanté tout à l'heure dans ce chant, je ne m'en rappelle plus. Où il est Gabriel ? Il est là. Qu'est-ce qu'on a chanté tout à l'heure, là ? Je courais, je ne sais plus, là. Hein ? Ah oui, voilà, c'est bon. Peut-être qu'on le rechantera tout à l'heure, c'était beau. Voilà. Ce désir de Dieu, courir à la maison de Dieu pour écouter ce qu'on me disait du Seigneur. Voilà, une soif de Dieu. Je souhaitais être en présence de ces gens qui découvraient en même temps que moi la foi et l'évangile. Alors j'ai eu mes premières épreuves. Mes parents ne comprenaient pas. Ils m'ont interdit d'aller à ces rencontres. Et je me rappelle ma mère qui exprimait ses craintes. « Mon fils, tu es devenu fou ?» Et alors que je restais enfermé dans ma chambre et que je pleurais parce que je voulais aller, j'étais en train de me rebeller. Et ma mère m'a dit une fois, en claquant la porte de ma chambre, « Mais qu'est-ce que tu veux à la fin ? Qu'est-ce que tu veux à la fin ?» Moi, je lui ai répondu en criant presque, « Je veux suivre Jésus ! Je veux suivre Jésus !» Je veux toujours le suivre. Et bien que mes parents m'aimaient profondément et que je les aimais profondément, j'étais devenu en quelque sorte un peu étranger à ma famille, exilé en diaspora au sein de ma propre fratrie. Je découvrais une nouvelle identité. Je ne reniais pas ma famille, mais j'apprenais à dire père à mon père qui est dans le ciel. Et c'est le privilège des enfants de Dieu d'appeler par Jésus-Christ le Père, Père. Hein ? Par la suite, j'ai dû apprendre. La foi en Jésus-Christ devait être cohérente dans mon attitude vis-à-vis de mes parents. Je ne pouvais pas être, à cause de Jésus-Christ, dans une attitude de confrontation frontale avec mes parents. Tout simplement parce que l'Évangile me l'enseignait. Alors j'ai appris à conjuguer ma foi et le respect et l'obéissance que je devais à mes parents. Oui, à cause de Jésus-Christ. Alors si vous lisez la suite de 1 Pierre, vous allez voir que les chrétiens étaient confrontés aussi au problème de l'autorité. Comment pouvaient-ils conjuguer une soumission à l'autorité qui était une autorité païenne, et en même temps conjuguer leur foi et vivre leur foi. J'ai appris cela, moi, avec mes parents. La vie nouvelle se manifeste par de nouvelles attitudes et par de nouveaux comportements. On ne va pas le lire, la suite de Pierre, je vous le laisse faire chez vous, ça. Hein, d'accord ? Il y a donc un avant, il y a un après. La vie nouvelle se manifeste. Regardez comment Pierre parle de la vie ancienne. Il parle de autrefois, au temps de l'ignorance, au verset 14. On pourrait traduire aussi en termes d'aveuglement. Il en parle également, et nous l'avons lu, en termes de vie futile. Quelque chose de futile, c'est quelque chose qui est superficiel, sans intérêt, une vie vaine, une vie de non-sens. Une vie conduite par la vanité, par les passions, par la gloire humaine, qui, nous l'avons vu, nous l'avons lu, la gloire humaine, elle est comme l'herbe des champs, comme la fleur des champs, ça fane. Ça va pour un moment, mais au bout du terme, c'est fané. La gloire humaine est ainsi. Paul raconte son ancienne vie, lui aussi. Il dit qu'il a agi par ignorance. Il emploie le même mot que Pierre. Étonnant, n'est-ce pas, de la part de ce zélé de la loi pour la loi, de cet érudit, de ce savant. Il était ignorant de la vérité. Dans un autre passage, l'apôtre Paul aussi raconte comment il vint à considérer tout ce qui faisait sa gloire, tout ce dont il était fier avant, il le considérait maintenant à cause de Jésus-Christ comme de la boue. La vie nouvelle se manifeste par de nouvelles valeurs. Dans cette nouvelle vie qui commence en vous, vous allez voir surgir de nouvelles valeurs. Tout ce qui vous paraissait fort, louable, digne d'intérêt, sage, riche, eh bien peut-être vous allez apprendre par cette vie nouvelle qui vient en vous et qui continue à se développer, à considérer cela comme de la futilité. Une vie futile. Ainsi parle l'Éternel, et puis on en avait fait une méditation au courant juin, je crois, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, mais que celui qui se glorifie, se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître. C'est ça les vraies valeurs, la vraie valeur qui est une valeur éternelle, connaître Dieu. Pierre, pour caractériser la vie nouvelle, emploie le mot « obéissance ». Obéissance, il en parle 3 fois dans le chapitre 1. Les chrétiens ont été consacrés par l'Esprit-Saint pour être obéissants à Jésus-Christ. Ils sont devenus des enfants obéissants, on l'avait vu la semaine dernière. Et ils sont là, obéissants à la vérité, au verset 22. Qui dit obéissance, dit autorité. Une volonté qui se soumet à une autre volonté. Et vous savez, mes amis, mes frères et sœurs, l'autorité de Jésus ne s'exprime pas par un pouvoir de coercition sur nous. Son autorité repose sur son amour. Il ne nous dit pas, tu as intérêt à être obéissant, sinon tu vas voir, fais gaffe à ton matricule. Fais gaffe à toi si tu n'es pas obéissant. L'autorité de Jésus s'exprime par son amour. Nous sommes obéissants par amour. Nous apprenons à dire oui. Vous savez, les enfants, la première chose qu'ils disent, c'est toujours non. Ils apprennent à dire oui. Nous aussi, nous apprenons à dire oui à Jésus quand nous marchons. Alors, continuons. Comment la volonté de Dieu, puisque qui dit obéissance, dit autorité, qui dit autorité dit volonté, comment la volonté de Dieu nous parvient-elle? Je vous le donne en mille. Par la parole de Dieu. Comment est-ce qu'on connaît la volonté de Dieu? Par la parole de Dieu. Jamais l'Esprit Saint qui a inspiré les Écritures nous dira quelque chose qui serait contraire aux Écritures. Si vous pensez que l'Esprit Saint vous pousse à mentir, à voler, à tromper votre conjoint, à être infidèle, vous pouvez être sûr que ce n'est pas l'Esprit Saint. Ok ? Vous pouvez le mettre de côté. La volonté de Dieu n'est pas arbitraire. Elle est conforme à ce qu'il est, lui. Et ce qu'il est, lui, comment je le découvre ? Eh bien, je le découvre dans sa parole. Quand je lis sa parole, il nous dit qui il est au travers d'elle. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi. Vous connaissez la suite? Je vais demander à André de me la dire, la suite. Excuse-moi André, tu es dans mon collimateur ce matin. Oui, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement devant ton Dieu. Voilà la volonté de Dieu exprimée clairement, directement. On n'a pas besoin de se mettre à genoux pendant 10 heures pour connaître la volonté de Dieu. Elle est là, elle est exprimée, elle est dite. Ça va? Je peux continuer encore 5 minutes? Quand l'Esprit Saint vient, il va prendre la parole et vient nous l'appliquer dans nos circonstances particulières, dans nos moments particuliers. Mais il prendra toujours ce qui vient de la parole, pas en dehors de la parole. Vous voulez grandir dans une expérience charismatique? Eh bien, grandissez dans la lecture de la parole. Il n'y a pas d'autre chemin. Comment s'exprime encore la nouvelle vie reçue? Elle s'exprime par de nouvelles affections, et en particulier l'affection, l'amour pour la famille de Dieu. Exilés, étrangers dans notre propre culture, nous trouvons une famille, la famille de Dieu, à laquelle il nous adjoint, à laquelle il nous incorpore, simplement par cette nouvelle naissance. Nous n'avons qu'un seul mot pour dire « aimer » en français. Le grec est beaucoup plus riche. Pierre utilise 2 mots dans le verset 22 que nous avons lu. Il utilise le mot pour dire l'amour fraternel, c'est philadelphia. Et puis il emploie aussi, lorsqu'il dit « aimez-vous » de manière ardente, il utilise le mot « agapao », qui est en quelque sorte l'amour divin, l'amour sacrificiel de Dieu, car Dieu a tant aimé le monde, c'est le verbe « agapao ». Et donc nous avons besoin de partager ces 2 sortes d'amour dans la communauté de l'Église. L'amour fraternel, parce que nous sommes passés par la même régénération, nous sommes frères et sœurs par le Christ. Nous avions le même besoin de salut, nous avons eu la même grâce qui nous a été donnée et qui nous a été partagée par tous. Il n'y a pas de chouchou dans la famille de Dieu, vous le savez. Pas de chouchou. Et puis nous avons besoin de l'amour divin parce que souvent, nous ne sommes pas à la hauteur. Et nous avons besoin d'exercer le pardon, de pardonner comme d'être pardonné. Alors juste, j'ouvre une parenthèse au sujet du pardon. Parfois, entre frères et sœurs, nous avons besoin d'explications et de confrontations. Mais le but, ce n'est pas l'explication, ce n'est pas la confrontation. Le but, c'est d'aboutir à un pardon mutuel, n'est-ce pas? Mais il faut, chers amis, chers frères et sœurs, que la plupart du temps, le pardon devienne une espèce d'automatisme entre nous. Et que nous passions davantage à passer par-dessus les offenses supposées ou réelles que d'explications. Nous avons besoin davantage de passer du temps à passer par-dessus plutôt qu'à aller chercher la confrontation et l'explication. Et je referme la parenthèse. Une autre parenthèse. Entre nous, ne développons pas un esprit pharisien quand il s'agit du pardon. Vous savez, le pharisien de la parabole que Jésus, le pharisien et le publicain, le pharisien, il dit « Je te loue, Seigneur, de ce que je ne suis pas comme cet homme. » Vous vous rappelez? Eh bien, justement, ce pharisien, il est comme tous les autres hommes. Et entre nous, nous sommes tous des pécheurs, pardonnés, justifié par grâce. Parfois, on se part de l'esprit pharisien et puis on s'offusque du péché que l'on voit chez un frère. Seigneur, je te loue de ce que je ne suis pas comme lui. Hein. Ben justement, tu l'es. Justement, tu l'es. Nous sommes tous des pécheurs pardonnés, justifiés par grâce. Et le péché que le frère que tu as vu commettre, eh bien toi aussi tu es capable de le faire. Eh oui, hein, je m'excuse. Quand l'apôtre Paul dit, raconte la liste des péchés dans Éphésiens, il me semble, il nous dit, et nous aussi, nous étions de ce nombre. Nous aussi, nous étions de ce nombre. Nous aussi. Voilà. Alors, Pierre décrit l'amour qui devrait être dans la communauté. C'est un amour sincère, c'est-à-dire non feint. On ne péchera jamais par excès de bonté, les amis. On ne péchera jamais par excès de bienveillance. On ne péchera jamais par excès de paroles calmes et de paroles posées. Il nous appelle à aimer d'un cœur pur. Notre motivation pour aimer n'est pas d'obtenir, mais de donner. Il n'y a pas de place pour l'amour calculateur, pas de place pour l'amour manipulateur. Nous aimons ardemment, c'est l'exhortation de l'apôtre Pierre, ça veut dire avec toute notre énergie. L'amour est sportif en fait. Hein ? Pour aimer, il faut être sportif, il faut mettre toute son énergie. C'est plus une question de volonté, plus qu'un problème de sentiment ou d'émotion. Aimons-nous ardemment. Voilà en quelques mots comment la vie nouvelle, sans être exhaustif, comment elle se manifeste. Hein, voilà. Je vous ai décrit une vie qui se développe de manière harmonieuse, sans accrocs, mais la vie nouvelle est un combat, parce que notre vieille nature, bien que nous soyons plus redevables pour la satisfaire, elle se manifeste encore, elle a des sursauts de vie. Et l'apôtre Pierre termine en disant à avoir deux attitudes. Rejeter tout ce qui vient d'elle. Rejeter la médisance, la méchanceté, la ruse, l'hypocrisie, la jalousie. Rejeter, ça veut dire balancer au loin. C'est se débarrasser comme on se débarrasse d'un vieux vêtement pouilleux. On ne l'amène pas à la friperie, on ne le donne pas à Fabienne. On balance, c'est non recyclable. La méchanceté est non recyclable. La jalousie est non recyclable, il faut rejeter. Et par contre, Pierre nous dit, ayez des désirs pour la parole de Dieu, qui est un lait nourrissant. Et dans la vie nouvelle, nous serons toujours des nouveau-nés. Nous serons toujours au départ de la vie. Et nous aurons toujours à grandir et à développer. Et pour grandir, eh ben, il faut de la bonne nourriture, du bon lait de la parole de Dieu. Amen. Allez, je vais m'arrêter là parce que sinon, on est là à midi. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, viens l'inscrire dans notre cœur. Seigneur, merci pour cette orange que tu as encore pressée et qui a donné encore du jus et qui vraiment nous nourrit, nous abreuve. Seigneur, merci pour elle. Merci pour cette parole qui est vraiment ce filon inépuisable où on trouve des trésors encore et encore. Je veux te remercier, Seigneur, pour notre relation à la parole. Fais-la grandir, Seigneur. Amen. Amen. Je vais appeler Gérard et Corinne pour nous diriger pour la Sainte-Seine.